Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du mardi 25 juillet 2023, en direct de Washington, Nani Talani. Il est 20h en temps universel. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, l'utilisation du vaccin antipaludique R21 Matrix M a été autorisée pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. En Algérie, les incendies ont fait au moins 34 morts. Vladimir Poutine s'apprête à accueillir ses homologues africains pour un deuxième sommet Russie-Afrique. Et puis dans notre partie magazine, nous verrons comment l'insécurité a provoqué une crise alimentaire dans certaines régions de l'est de la RDC et au Gabon, des éléphants qui viennent perturber la quiétude des villageois dans l'arrière-pays. N'oublions pas notre page sport avec un rendez-vous avec le mondial du foot féminin et la Minute Écho. Mais pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, l'utilisation du vaccin antipaludique R21 Matrix M a été autorisée pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. C'est ce qu'a indiqué l'unité de recherche clinique de Nanoro où les essais ont été menés. Le Faso devient donc le troisième pays d'Afrique à mettre ce vaccin sur le marché. Des détails avec Eric Manirakiza.
Ce vaccin sera un nouvel outil important qui va contribuer à accélérer le programme d'élimination du paludisme au Burkina Faso, s'est réjoui le ministre de la Santé Robert Kargougou, rappelant que le paludisme est la première cause de mortalité infantile dans le pays. Le principal instigateur des essais, le professeur Alidou Tinto, salue une décision historique qui va contribuer à sauver des millions de vies, notamment celle des enfants de 5 à 36 mois qui sont les plus à risque de décès liés au paludisme. Le vaccin antipaludique R21 Matrix M a été homologué pour une utilisation par l'Agence nationale de la régulation pharmaceutique du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, précise l'unité de recherche et clinique de Nanoro qui a mené les essais. Après le Ghana et le Nigeria, le Burkina Faso est le troisième pays d'Afrique à homologuer ce vaccin produit et commercialisé par un institut indien.
Le gouverneur de la Banque centrale nigériane, Godwin Emefiele, qui a été suspendu, a comparu aujourd'hui devant le tribunal pour répondre des accusations de détention illégale d'une arme à feu et des munitions. Il a plaidé non coupable aux deux chefs d'accusation. Godwin Emefiele a été arrêté par le département des services d'État le 10 juin, un jour après sa suspension par le nouveau président Bola Tinubu. Le tribunal promet de le libérer sous caution s'il paye 25 500 dollars, soit 20 millions de naira. Au Soudan, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie des généraux en guerre ont tué au moins 16 personnes aujourd'hui. Des obus ont frappé des maisons civiles dans le quartier d'Ombada, dans le nord-ouest de Khartoum. Ces derniers bombardements ont alourdi le bilan à près de 3 900 morts. La guerre, qui a débuté le 15 avril entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, a déraciné plus de 3,3 millions de personnes. 5 corps de migrants subsahariens ont été retrouvés près de la frontière entre la Libye et la Tunisie. Le ministère de l'Intérieur libyen a indiqué que les corps ont été découverts lors de patrouilles. Des dizaines d'Africains subsahariens sont bloqués près de la frontière libyenne et affirment que les autorités tunisiennes les ont expulsés de la ville de Sfax au début du mois. Plusieurs personnes sont toujours bloquées dans cette zone dans des conditions très difficiles, assoiffées et affamées en raison de la canicule, selon des groupes de défense des droits de l'homme. En Algérie, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est du pays et causé au moins 34 morts depuis dimanche. Sur 97 incendies déclarés, il reste 13 foyers à éteindre, d'après un porte-parole de la protection civile. Des détails avec Dili Diko.
Des témoins ont décrit leur fuite devant des murs de flammes qui faisaient rage comme un chalumeau alors que les images télévisées montraient des voitures carbonisées, des magasins calcinés, des champs et des broussailles parties en fumée. Les feux ont touché plus de 15 préfectures, en particulier celles de Buira, Jijel et Béjaïa. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes lors d'évacuations, selon le ministère de la Défense qui a annoncé la mort de 10 militaires. Des blessés, dont certains grièvement brûlés, sont à déplorer, selon le gouverneur de Béjaïa. Les autorités ont fait état de progrès après avoir mobilisé plus de 8000 membres de la protection civile, 500 camions de pompiers et plusieurs avions. Sur les 97 incendies, la plupart ont été maîtrisés, mais 13 sont toujours en cours, selon le ministère de l'Intérieur. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé ses condoléances aux familles et le procureur de Béjaïa a ordonné l'ouverture d'enquête.
Le ministère égyptien des Affaires étrangères a convoqué ce mardi le chargé d'affaires de l'ambassade de Suède au Caire pour protester contre des profanations récentes du Coran à Stockholm. Fin juin, Salwan Mumika, un réfugié irakien en Suède, avait brûlé des pages d'un exemplaire de Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm. La semaine dernière, il a organisé un nouveau rassemblement durant lequel il a piétiné et mis en pièces un nouvel exemplaire du Coran devant l'ambassade d'Irak.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Vladimir Poutine accueille à partir de ce jeudi ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
À Saint-Pétersbourg, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le partenariat constructif, confiant et tourné vers l'avenir entre la Russie et l'Afrique est particulièrement significatif et important, a déclaré Vladimir Poutine dans un article publié sur le site du Kremlin. Selon son porte-parole, tous les États africains ont été soumis à une pression sans précédent de la part des États-Unis et les ambassades françaises n'ont pas été inactives pour empêcher ce sommet d'avoir lieu. Il a ajouté qu'il est important que la Russie se réunisse avec les Africains pour parler, entre autres, de l'accord sur les céréales. Moscou a quitté cet accord alors qu'il permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales par la mer Noire. Le Kremlin a assuré que la Russie est prête à exporter ses céréales gratuitement vers les pays africains qui en auront le plus besoin.
Le président américain Joe Biden doit annoncer aujourd'hui la création d'un nouveau monument national à la mémoire d'Emmett Till, un adolescent noir victime d'un assassinat raciste en 1955 et devenu une figure posthume du mouvement pour les droits civiques. Claire Morin-Gibourg.
Trois lieux historiques dans l'Illinois et le Mississippi formeront le mémorial qui rendra hommage à Emmett Till, cet adolescent noir de 14 ans enlevé, torturé et tué en 1955 dans l'État du Mississippi. Originaire de Chicago, le garçon rendait visite à sa famille et avait été accusé d'avoir sifflé une femme blanche. Puis il a été enlevé et son cadavre mutilé a été retrouvé dans une rivière. Sa mère, Mamie Till Mobley, avait insisté pour que le cercueil de son fils reste ouvert afin que la foule immense puisse voir son visage défiguré. Devenue une militante des droits civiques aux États-Unis, Mamie Till sera également mise à l'honneur par ce monument. La proclamation de création du monument sera effectuée par Joe Biden à la Maison-Blanche en présence du dernier témoin encore en vie de l'enlèvement d'Emmett Till. Wheeler Parker, un pasteur octogénaire, est le cousin et l'ami qu'il a vu être emporté avant d'être assassiné. D'après la Maison-Blanche, le monument à la mémoire d'Emmett Till fera partie de l'histoire plus large de l'oppression des Américains noirs, de leur survie.
L'envoyé spécial français au Liban, Jean-Yves Le Drian, a entamé ce mardi une nouvelle mission pour tenter d'aider à l'émergence d'une solution consensuelle dans ce pays privé de président depuis près de 9 mois. Depuis la fin du mandat de Michel Aoun, le 31 octobre, le Hezbollah pro-iranien et ses alliés et leurs adversaires tentent chacun d'imposer un candidat, mais aucun des deux camps ne dispose d'une claire majorité au Parlement. Monsieur Le Drian, ancien chef de la diplomatie française, s'est rendu dès son arrivée auprès du président du Parlement, Nabi Berri, et doit rencontrer les différents responsables politiques au cours de sa visite de 3 jours. En Israël, au lendemain de l'adoption par le Parlement d'une mesure importante du projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, la crise s'amplifie. Le barreau israélien a déposé des appels auprès de la Cour suprême pour l'annulation de cette loi qui limite la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mohamedou Oumfa.
La Société nationale des pétroles du Congo-Brazzaville, SNPC, a signé à Alger un protocole d'entente avec la Sonatrach, la Société nationale algérienne des hydrocarbures, pour renforcer la coopération en matière d'exploration et de développement des hydrocarbures. Le projet porte sur l'échange d'informations liées au pétrole et au gaz, ainsi qu'au partage d'expertise dans plusieurs domaines. En Afrique du Sud, un méga projet pour creuser des souterrains sous la plus importante mine à ciel ouvert a commencé à produire des diamants, a annoncé ce mardi le groupe de Beers, premier fournisseur de diamants qui promet ainsi de générer des profits au moins jusqu'en 2045. La mine de Venetia, près de la frontière avec le Botswana et le Zimbabwe, est exploitée depuis 30 ans. Le diamant se faisant rare, le groupe avait parié sur la construction d'infrastructures permettant d'accéder à des roches souterraines sur un investissement de 2,3 milliards de dollars. Le Maroc recevra 350 millions de dollars de prêts de la Banque mondiale pour renforcer sa sécurité de l'eau, a annoncé lundi l'agence de presse officielle MAP. Ce programme aidera Rabat à étendre le réseau d'eau potable et d'irrigation.
Maintenant, la page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Nanit, bonsoir à tous.
Nous commençons avec la Coupe du monde féminine qui se poursuit en Nouvelle-Zélande et en Australie avec les rencontres de la 2e journée.
La Norvège a été accrochée 0-0 par la Suisse qui prend la tête du groupe A. Les Suissesses, vainqueurs 2-0 des Philippines lors de leur premier match, n'ont plus besoin que d'un point pour aller en 8e. La Norvège est dernière du groupe avec un point. Dans l'autre match de cette poule A, les Philippines ont remporté le premier succès de leur histoire en Coupe du monde en battant 1-0 la Nouvelle-Zélande devant son public à Wellington. Les matchs de cette 2e journée se poursuivent demain. Dans le groupe C, le Japon et l'Espagne, qui ont fait forte impression face à la Zambie et au Costa Rica, ont de fortes chances d'assurer leur qualification pour les 8e en 4 victoires avant la dernière journée de ce groupe. Les Espagnols affrontent les Zambiennes et les Japonaises jouent contre les Costariciennes.
Sur le marché des transferts, Wilfried Zaha rejoint Galatasaray.
L'attaquant international ivoirien, ex-buteur de Crystal Palace, s'est engagé avec Galatasaray. Après 13 saisons en Premier League, a annoncé le club turc. Un accord a été conclu pour 3 saisons, a indiqué Galatasaray, champion de Turquie en titre, dans un communiqué qui ajoute que Wilfried Zaha, 30 ans, touchera 4,35 millions d'euros par saison et percevra une prime à la signature de 2,33 millions d'euros. Hormis une quinzaine de matchs sous les couleurs de Manchester United et de Cardiff City entre 2013 et 2014, Zaha est resté fidèle à Crystal Palace depuis ses débuts en professionnel en 2010. Il a inscrit avec l'équipe londonienne 90 buts en 458 matchs. L'Ivoirien évoluera aux côtés de l'attaquant international congolais Cédric Bakambu, qui s'est engagé dimanche avec le champion de Turquie.
Pour terminer, Yakuba, en athlétisme, Kelvin Kiptoum disputera le marathon de Chicago en octobre, ici aux États-Unis.
L'athlète kenyan, proche de battre le record du monde du marathon au printemps, s'alignera sur le parcours de Chicago le 8 octobre. Selon les organisateurs, Kelvin Kiptoum, âgé de seulement 23 ans, fait sensation sur marathon. Après des débuts remarqués à Valence, en Espagne, en décembre 2022, en 2h01:53, cinquième chrono de l'histoire, il a échoué à seulement 16 secondes du record du monde de son compatriote Eliud Kipchoge, en triomphant à Londres en avril en 2h01:25. Légende de l'athlétisme aux 2 titres olympiques, Kipchoge, 38 ans, a lui annoncé qu'il disputerait le marathon de Berlin en septembre, ce qui devrait reporter le duel attendu entre les 2 athlètes. Sur l'épreuve féminine, dont le plateau de star avait déjà été annoncé, la tenante du titre kényane, Ruth Chepngetich, va concourir notamment contre la néerlandaise Sifan Hassan.
C'était la page sport avec Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Nanit Talani, passons maintenant à la page magazine. Certaines régions de l'est de la République démocratique du Congo connaissent une crise alimentaire à cause de l'insécurité. À Goma, par exemple, toutes les voies d'approvisionnement ont été coupées par les rebelles du M23, une situation qui fait grimper le prix des denrées alimentaires. Pour pallier ce problème, un jeune entrepreneur a créé Kibou Labor, un projet qui vise à produire plusieurs tonnes de produits agricoles grâce à la main-d'œuvre offerte par les personnes déplacées. C'est un reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Même si le travail dans les champs est difficile, mais ces personnes déplacées les font toujours dans une très bonne atmosphère. Comme Mareba Alphonsine, une femme déplacée et mère de 9 enfants, qui vit dans le site des déplacés de Kanyaruchinya, dans le nord de Goma. Elle fait partie des déplacés sélectionnés pour cultiver puis nourrir la ville de Goma et ses environs. Pour elle, ses travaux arrivent à point nommé.
L'initiateur du projet est venu nous chercher sur le site des déplacés et nous a donné de l'argent, 5 000 francs. C'est pourquoi nous cultivons dans l'espoir d'avoir de quoi nourrir les enfants.
Le projet en question est Kivu Labour, initié par le jeune Omuija Manassé, qui attend répondre aux besoins de la pénurie des produits alimentaires sur le marché de la ville de Goma et de ses environs en cette période d'aiguë. Avec plus de 8 hectares de terres arables déjà entre les mains de ces jeunes entrepreneurs, en 4 mois, la carte des prix du marché pourrait changer en faveur de la population.
J'ai pu constater que les haricots, une mesure était à 1000 francs. Aujourd'hui, ça a monté jusqu'à 5000. Un kilo de pommes de terre était à 500 francs. Aujourd'hui, c'est monté à 2000 francs. Alors, j'ai été poussé comme un jeune entrepreneur de venir ici pour voir comment faire pour que je sauve un peu la ville. Malgré que je suis limité par les moyens, mais quand même, je sais que je vais aider la ville par ces moyens que je venais d'utiliser dans l'agriculture.
Cette approche est soutenue par des spécialistes de l'économie. Deo Benguehia, professeur d'économie dans les universités de la région, estime que pour atténuer la menace de la crise alimentaire dans des régions en proie à la guerre, l'agriculture locale devrait être soutenue par le gouvernement congolais.
Par rapport à la ville de Goma et le souffle du marasme économique que le pays traverse en général, et surtout les effets pervers de la guerre que nous sommes en train de vivre. C'est à encourager, ça va aider, mais ça ne pourra pas juguler toute la situation, parce que la demande est très forte. Mais c'est déjà un pas.
Omuija Manassé recrute plus de 100 personnes déplacées par jour, à qui il donne une petite somme d'argent pour cultiver et s'aimer. Pour arriver à quelque chose de significatif, le jeune entrepreneur a besoin de beaucoup de soutien. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Au Gabon, les animaux sauvages divagant tout près des villages perturbent la quiétude des populations de l'arrière-pays. Les plantations sont régulièrement détruites par les pachydermes. Des éléphants et certains félins tuent même les hommes et les femmes en forêt ou dans les maisons. Lors de sa récente tournée, le président Ali Bongo a promis une indemnisation de l'État aux victimes. Sur le conflit hommes-éléphants dans les forêts de la Gounié au sud du Gabon, voici le reportage de notre correspondant Ismaël Obianze.
Jean-Paul Dengo est à bout de souffle. Ce cultivateur du village de Boudou dans le sud du Gabon découvre à son réveil ce qu'il redoutait le plus. Sa plantation de bananes et de manioc est littéralement saccagée par des éléphants.
Ça fait 3 jours que je ne viens pas ici là. Tout le temps, c'est comme ça. Je viens regarder. Je vais aller où avec les enfants? Regardez comment la plantation. Ce n'est pas le seul plantation. Peut-être devant là-bas, ça sera toujours pareil comme ça là.
Les destructions se multiplient de village en village dans la même région. Ici en Mandji, Adeline Moussavo, une cultivatrice, nous oriente vers une autre exploitation agricole en ruine après le passage d'un troupeau d'éléphants.
Regarde, là-bas, derrière des bananes, là, ils ont fini tout.
Dans l'arrière-pays, à la lisière des forêts denses, les conflits entre habitants et animaux sauvages se multiplient. De plus en plus, les cas de destruction des plantations sont enregistrés près des réserves animalières protégées ou sur des sites affectés aux agro-industriels. Et quand le corridor réservé à ces animaux est perturbé, ils viennent se ravitailler dans les villages. Laurent Moussavou est un habitant de Mandji.
À cause des éléphants, nous sommes lassés. La population est lassée. Nous sommes fatigués. Nous souffrons de faim. À cause des éléphants. Depuis que l'homme s'est planté, les éléphants nous envahissent.
Devant l'ampleur du phénomène, des solutions rudimentaires ont été inventées par des communautés pour protéger leur culture. Des boîtes vides de conserve sont attachées à une corde, elle-même suspendue sur un poteau d'environ 3 mètres. Basile explique comment cette stratégie permet de repousser les éléphants.
J'allume la lampe, je l'introduis dans un pot vide de 5 litres. Solidifié par un caoutchouc. Là, je suis en train de hisser comme si c'était le mât du drapeau. Il suffit que l'éléphant voie. Allez, au lieu de prendre encore ce chemin, allez, il va ailleurs.
Des solutions dérisoires, mais tous les moyens sont bons. D'autres villageois vont dresser des campements autour et au milieu des champs et font du bruit ou allument des torches afin d'éloigner les pachydermes. Selon le gouvernement, le nombre de victimes des dégâts causés par les animaux sauvages s'élève à 13 000 à travers le territoire national. Les autorités ont promis une enveloppe de 4 milliards de francs CFA d'indemnisation aux victimes. De retour de Mouila dans le sud du Gabon pour VOA Afrique, Ismaël Obianzi.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Burkina Faso, un voyage du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela la semaine dernière au Nicaragua fait polémique. Pour certains Burkinabés, il s'agit d'un pays lointain qui ne peut rien apporter à la lutte contre le terrorisme. Pour d'autres, c'est une visite essentielle car le Nicaragua est une terre de lutte et de résistance. De Ouagadougou, voici le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
La visite officielle du Premier ministre a duré 72 heures à Managua, la capitale du Nicaragua. Il a participé à la cérémonie officielle du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste et a regagné la capitale Ouagadougou. Ici, certains pensent que ce voyage était inopportun. Évariste Consimbo, chroniqueur média, président du Cercle de Veille.
Le Nicaragua, c'est aussi pas un modèle de gouvernance et c'est un pays qui a encore des difficultés. Tout ce que moi je peux dire que cette visite apporte, c'est le tourisme. En fait, cela permet au Premier ministre de découvrir des pays parce que c'est un rêveur. En clair, cette visite ne peut rien apporter au Burkina Faso. La seule personne qui tire profit de ça, c'est le Premier ministre qui profite pour faire des voyages et des découvertes.
Issa Kalengani, journaliste et analyste politique, a réagi sur la télévision privée BF1.
Pour être honnête, si nous avons des gens qui nous aiment dans ce monde-là et qui connaissent nos situations de drame, faut pas qu'ils nous appellent chez eux. Ils n'ont qu'à venir chez nous. Si le Nicaragua pense qu'il peut apporter quelque chose au Burkina Faso, il n'a pas appelé notre président ou notre premier ministre à venir là-bas. Ils envoient des gens travailler avec nous, voir les zones dans lesquelles ils peuvent avancer. Il ne faut pas nous distraire dans des voyages. L'amitié, là, c'est un prix. On n'est pas en temps normal.
La révolution sandiniste désigne l'opposition à la dictature de la famille Somoza et la campagne menée par le Front sandiniste de libération nationale qui a conduit à la chute violente de la dictature en 1979, puis la réforme de la société et l'économie du pays malgré l'embargo américain. Les sandinistes ont été accusés de graves atteintes aux droits humains, notamment de torture, disparition forcée et d'exécution massive. Malgré tout, d'autres Burkinabés sont beaucoup moins critiques de ce déplacement. Adama Sigiré, professeur de philosophie et écrivain.
Le Nicaragua, c'est une terre de résistance, c'est une terre de souveraineté. Ici, au Burkina Faso aussi, nous avons opté pour la lutte pour la souveraineté. Nous avons opté de chercher des modèles qui nous ressemblent. Nous avons décidé de faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce sont des visites encore à multiplier pour montrer notre volonté de nous affirmer, notre volonté de tracer notre modèle, de tracer notre voie et de ne pas dépendre des autres, surtout de ne pas dépendre de nos amis, surtout la France et ses alliés qui ont toujours cru que nous sommes nés pour les servir.
Le Premier ministre est revenu à Ouagadougou affirmant avoir été séduit par la discipline au Nicaragua. Il a déclaré que le Burkina a été honoré lors de la célébration du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste, car étant le seul pays à y prendre la parole. Le Nicaragua est un pays d'Amérique centrale coincé entre les Honduras et le Costa Rica. Est-ce que le Burkinabé moyen, qui subit les assauts répétés des djihadistes, saura placer ce pays sur une carte? La réponse est beaucoup moins certaine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les designers ou attacheurs de pagne sont les premiers maillons de la chaîne de fabrication des pagnes Indigo, pagne à motif ou bazin à design. Du travail méticuleux qui laisse beaucoup à désirer en termes d'indemnisation. Aïcha Diarra s'est intéressée à ce domaine d'actualité dans la commune d'Anyama, dans le Grand Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Nous sommes au quartier Cissé d'Anyama et Bema Koulibaly, jeune écolier en classe de 4e dans une école coranique, est assis à même le sol. L'aiguille qu'il a entre ses mains pique le tissu blanc posé en face de lui. Il est en apprentissage auprès de son père.
Quand moi je sors à l'école à midi, je viens aider mon papa. On commence à midi, on arrête le travail à 18h30. J'ai pris beaucoup à mon papa. Bon, je peux dire que j'ai pris 3 modèles comme ça.
Une formation qui peut se faire sur au moins 5 ans. Ouattara Soumaïla exerce ce métier depuis plus de 10 ans.
À peu près 5 ans de formation. Auprès des parents, auprès des amis, auprès des cousins qui vous forment depuis le bas âge jusqu'à ce que vous deveniez un designer.
Un travail qui demande aussi beaucoup de prudence. Alors, la colle sur le doigt devient quelque chose d'indispensable. Touré Yaya est designer depuis plus de 20 ans.
Fil là, souvent, ça nous blesse. Souvent, ça blesse jusqu'à le sensor. Voilà, lorsque tu mets le col pour protéger ta main, voilà, là, tu n'as pas ce genre de problème.
Malgré ces difficultés, ces designers de pagne ont du mal à joindre les deux bouts. Soumaïla Ouattara.
Un pagne, ça fait 100 francs, le pagne. Donc, disons, une balle, il y a 160 pagnes dans le balle quand on découpe la balle.
Dans une semaine, vous pouvez faire combien de balles?
Je dirais, dans la semaine, nous pouvons attacher 2 balles, puisque le travail n'est pas du tout facile.
Pour un calcul rapide, l'on dira 16 000 francs par balle de tissu. 100 francs qui est une nette amélioration de leur paye. Koulibaly Bamouré, à 56 ans de métier, a connu l'évolution des payes pour chaque design.
Avant, c'était 25-20. Maintenant, avec la charte de vie, bon, c'est ça qui a fait qu'on a mis ça à 100 francs. Et pour qu'on arrive à faire notre besoin, on n'arrive pas à sortir même. On se débrouille seulement.
Une précarité qui fait fuir les plus jeunes de plus en plus, selon Touré Yaya.
Quand ils nous voient des informels comme ça, ça ne les intéresse pas. Tu vois ça comme travail en tout cas. Même ceux qui sont nous, c'est les élèves, ils vont à l'école lorsqu'ils sont en vacances, c'est là ils viennent travailler avec nous pour pouvoir avoir un peu d'argent pour payer les achats, etc. Sinon, quand il y a l'école, là, ils s'en vont. Hein.
Pourtant, pour un lendemain meilleur pour ce métier, cette jeunesse est le seul espoir.
En tout cas, moi, je souhaiterais que les jeunes s'intéressent à ça là beaucoup. Peut-être aujourd'hui, nous, on a des informels. Peut-être demain, quelqu'un peut aller à l'école, venir développer ça, pour faire ça un grand truc, pour faire usine dans ça.
Il faut noter que nous n'avons rencontré aucune femme designer à Anyama. Certains hommes disent qu'ils n'en ont jamais connu. Seul Touré Lassina, le doyen du métier, a souvenir d'une femme, et cela remonte à 1977. Et elle avait été formée par son époux. Ces designers sont aussi ceux qui composent les couleurs des tissus avec des produits chimiques qu'ils manipulent à longueur de journée. Aïcha Diarra, Anyama, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Hein, merci de l'avoir suivi. Au micro, Nanit Talani, à la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Adrus Régis. Rendez-vous sur notre site internet VOA Afrique et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.